Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue à tous dans la dernière émission de l'année 2019. Cette émission est préparée par Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Charles Pellabon. La gourmandise ce matin, c'est un tableau de 1788 signé Goya et intitulé « Saint François de Borgia et le moribond impénitent ». Un mourant au faciès déjà cadavérique expire douloureusement sur son lit, tandis que le jésuite François de Borgia brandit au-dessus de lui un crucifix dont semblent jaillir des étincelles. Derrière l'agonisant, on aperçoit des démons au rictus diabolique. Nous sommes les témoins d'un combat entre lumière et sombreur dont l'issue ne sera pas forcément heureuse, mais profondément humaine. Actrice engagée, à l'aura voluptueuse et solaire, notre apothicaire de l'âme s'initie très tôt à l'art dramatique en suivant les cours de sa mère puis ceux de Jean-Pierre Martineau et de la comédienne Vera Gregg. Elle entre au conservatoire après son bac, parsème les planches de son exquise physionomie, puis débute au cinéma notamment sous la direction de Godard, Doyon ou Téchiné. Elle égaye, bouleverse ou séduit sur près de 70 pellicules dont celles de Carax, Kieslowski, Mal, Haneke, Cronenberg, Kiarostami, Dumont, Assayas, Denis, Rapneau ou encore Kore-eda. À la ville, elle semble avoir un don particulier pour la joie, joie étant d'ailleurs son mot préféré. Curiosité, intuition, enthousiasme et spontanéité forment chez elle une réjouissante boussole. Tout en tenant compte de l'inhérente fragilité propre à tout être, notre apothicaire s'adapte, avance, inspire et rayonne. Son rapport au monde apparaît alors comme une célébration assidue de l'existence. Bonjour Juliette Binoche.
Waouh, bonjour.
Première question, Juliette Binoche, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Alors, pour moi, la mélancolie, c'est inhérent à l'être humain parce que nous avons tous quitté le ventre de notre mère et nous ne savons pas où nous allons. Donc, il y a de toutes les façons cette aspiration à ce bonheur perdu et l'amour qui nous transperce, qui nous fait vivre, qu'on peut ressentir, nous rappelle à cette mélancolie. Et pour moi, une façon d'échapper à la mélancolie, c'est de rentrer dans la mélancolie. On ne peut que transformer ces sensations, ces sentiments, que en les vivant pleinement et complètement. Je pense que le médicament pour pallier à cette mélancolie, c'est vraiment d'y aller au fond du fond. Voilà, c'est ma solution.
Elle ne vous a jamais effrayée, cette mélancolie, Juliette Binoche ?
Non, elle m'est nécessaire parce qu'elle elle me fait sentir le fond de mon âme, le fond de pourquoi je suis là, de cette grande question dont on n'a pas forcément les réponses, mais qui fait que je me sens plus vivante, plus humaine.
Vous dites dans une interview que vous ne cultivez pas le passé ni les regrets et que vous trouvez le présent lumineux.
Le présent, pour moi, c'est vraiment la vie et la présence dans le présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette état possible qu'on peut sentir à travers le corps, à travers le cœur, à travers l'esprit qui descend sur vous comme une sorte de une façon d'être soi sans forcément le formuler par des mots, sans aller dans le monde mental, mais plus en réceptionnant ce qu'on peut sentir. Voilà, c'est pour ça que le jeu d'acteur m'intéresse autant, sans doute, c'est parce que on doit capter quelque chose qui est de l'ordre invisible et le rendre visible, le rendre incarné.
On va d'ailleurs parler beaucoup de l'action, du rapport au corps, de l'incarnation dans les remèdes que vous avez choisis, Juliette Binoche. J'annonce le sommaire des réjouissances. Vous allez convoquer dans quelques instants, entre autres, Fred Astaire, de la danse, de la peinture, de la marche, de la lecture, du chant, de l'oubli, une cheminée, Gershwin, Malheur, Belafonte, des tambours, un ghetto intérieur, une prière, Rembrandt et Bonnard, juste après un titre de Laura Caen, La complainte du soleil.
Le soleil. Seul soleil
Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. Me réveille. Le soleil chassera.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Juliette Binoche et de Fred Astaire.
I love Louisa, Louisa loves me. When we rode on the merry-go-round, I kissed Louisa. And then Louisa, Louisa kissed me. We were so happy and free.
Ach, ach, but she's a beautiful Louisa.
Ach, when I choose them, I never want to lose them.
Someday, Louisa, Louisa will be
more as just a Fräulein to me.
Tous en scène de Minelli pour aborder vos sérums cinématographiques, Juliette Binoche. Vous n'avez pas choisi de film en particulier, mais vous avez indiqué les comédies musicales, entre parenthèses, Fred Astaire.
Oui, et surtout quand il danse, parce qu'il vole.
Ouais.
Et même à côté d'un Gene Kelly ou d'autres, il est celui qui est le plus léger. Il est complètement dans ses pieds, mais à la fois, c'est une espèce de magicien des claquettes. Parce qu'aussi, il est long, il est fin, il est une espèce d'ange des claquettes.
C'est vrai qu'il a une grâce aérienne et Gene Kelly qui correspond plus au canon de beauté.
Terrien,
et beaucoup plus terrestre et ouais, lourd finalement. Ouais. Tout semble facile aussi, accompli sans effort quand on regarde Astaire.
Oui, il y a une force qui est différente et une légèreté dans la force.
Juliette Binoche, je crois que les comédies musicales, vous les appréciez depuis petite. Peau d'âne de Demy, c'était votre film fétiche dans l'enfance.
Oui, c'était un des films que j'aimais et j'étais d'autant plus heureuse parce que j'ai joué avec Catherine dans ce film, là, La Vérité. Et donc pour moi, c'était Peau d'âne, la princesse, parce que je rêvais à mon amoureux futur et je trouvais que c'était magnifique de mettre une bague dans un gâteau, gourmande que j'étais.
Vous regardez beaucoup de films ?
Actuellement ?
En général.
Alors, ça dépend des périodes, parce que je travaille beaucoup, donc je suis, quand je fais un film, je ne peux pas tellement faire quelque chose d'autre à côté parce que je suis absorbée dans ce que je fais. Mais entre les films, et puis j'ai des périodes très différentes. Et à la fois, comme je suis dans le cinéma beaucoup, j'aime bien faire autre chose aussi, donc d'aller plus dans des concerts ou d'aller voir des expositions ou de créer moi-même, parce que je trouve que de voir la création c'est bien, mais de créer c'est encore mieux.
On continue à parler de création, de corps et de musique.
Tu vois, vraiment un point de contact entre vous, sinon ça a tous les portées. Un porté sur la tête. Alors là, c'est une histoire d'écoute. Prends son poids avant de partir. Il y en a une qui s'élève et l'autre qui avance.
2016, extrait du film Paulina, danser sa vie de Valérie Müller et Angélin Preljokaj en albanais, film adapté de la bande dessinée éponyme de Bastien Vivès, dans lequel vous êtes professeur de danse, Juliette Binoche.
Chorégraphe.
Ouais. Pardonnez-moi.
Ouais.
Pardonnez-moi.
C'était le rôle de Preljokaj, en fait.
Oui. Ouais. C'est lui qui a fait la chorégraphie du film.
Oui, et c'était aussi un peu son rôle.
Vous avez dansé dans plusieurs films, par exemple Les Amants du Pont Neuf de Carax. En 2008, vous avez co-signé, je crois. Dites-moi si je me trompe.
Co-créé, ouais, ouais.
Co-créé la chorégraphie, les textes et l'interprétation du spectacle. Ini,
un duo. Inai, oui.
Inai.
Oui, c'est comme un œil.
Festival.
Inai,
ouais. Festival d'erreur de ma part, un duo de 75 minutes avec le danseur et chorégraphe Akram Khan. La danse, c'est l'une des activités qui vous grise. Avez-vous pris des cours?
J'ai toujours été intéressée par le corps. J'ai fait des exercices parce que le désir de bouger, le désir aussi d'être conscient de son corps en tant qu'acteur, c'est une nécessité. Et par goût, et puis, mais cette idée de spectacle, elle n'était pas du tout dans ce que j'imaginais que pouvait être ma vie, mais c'est en fait une masseuse qui était en fait la femme du producteur d'Akram Khan, qui en me massant m'a demandé « est-ce que tu veux danser ?» Et j'ai dit comme ça en rigolant « oui ». Et en fait, ils m'ont invité à un spectacle d'Akram. Et puis après, on a fait trois jours d'improvisation, Akram et moi. Et à partir de là, on s'est dit, OK, dans 2 ans, on fait un spectacle ensemble. On crée un spectacle ensemble. Et donc, on a improvisé, on a répété. Mais la mémoire du corps du danseur et la mémoire émotionnelle de l'acteur, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est deux mémoires différentes. Donc, il a fallu que j'apprenne, en fait, à... C'est comme à dompter mon corps et à être patient avec lui parce que je n'arrivais pas à retenir les mouvements. J'arrivais pas à enchaîner parce que l'improviser, c'est une chose. De les reproduire, c'en est une autre. Et après, de complètement danser, se jeter dedans comme un acteur et un danseur, c'en est encore une autre. Donc, il y a eu quand même des paliers de travail importants. J'avais une super entraîneuse qui était Suman, qui est de Taïwan et qui est... C'est incroyable parce qu'elle sort des rizières et elle est devenue danseuse assez tard et après elle est devenue entraîneuse. Et c'est elle, ma masseuse, qui m'a vue danseuse et qui a fait que j'ai pu danser.
Juliette Binoche, en Occident, on a un rapport au corps assez inhibé, assez complexé. Vous, quel est votre rapport au corps ?
Alors là, pour moi, c'est mon instrument de travail. Donc, le corps dit... beaucoup plus vrai que le mental ne veut. Il parle en premier, en général, sauf si on a été éduqué d'une façon à ce que le corps ne parle pas, mais c'est à nous de nous réveiller. Je trouve qu'on a des talents insoupçonnés, c'est à nous de les mettre en route, les ébranler, de les mettre en risque. C'est vrai que moi, j'étais une bougeuse hein, à la maison. J'aimais aller... j'allais faire du vélo avec mes copines dans la forêt. J'ai toujours aimé m'exprimer par le corps, donc c'est naturel pour moi. Maintenant, de là à danser sur un plateau, c'est une autre histoire. Mais bon, on a quelques années à parfois mettre les choses en place. Ouais.
Il y a quelque chose d'assez beau, justement, dans votre rapport à toutes les formes d'art, Juliette Binoche. C'est que vous dites dans une interview que vous prenez le risque, par exemple, de chanter sans être chanteuse. Et vous dites, mes faiblesses ne m'empêchent ni de travailler, ni d'avoir envie de progresser. Et vous avez chanté en 2017 dans le spectacle Vaille que vivre, avec Alexandre Tarot qui vous accompagnait, adapté de l'autobiographie Il était un piano noir, les mémoires interrompues de Barbara. Vous avez aussi chanté avec Indochine sur le titre Punishment Park.
Oui, il m'avait invité Nicolas à participer à son disque. Mais par rapport à Barbara, j'ai surtout chanté après qu'Alexandre soit parti du spectacle, parce que pendant le spectacle, il désirait pas trop que je chante, même si on a conçu le spectacle ensemble. Mais comme il a voulu revenir à Scarlatti et Ravel et d'autres compositeurs, moi j'ai continué le spectacle en fait, et là du coup j'ai pas chanté 4 chansons mais plutôt 14-16, je me souviens plus très bien du chiffre, mais j'ai eu j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable, Martina Catella, qui peut faire chanter une poule. Hein.
Vous êtes loin d'être une poule, Juliette Binoche. C'est beau, malgré tout, de se dire j'ai envie de prendre des cours de chant, j'ai envie de peindre, et ben je le fais. Il y a beaucoup de gens qui s'en empêchent. Parce que justement, c'est un manque d'humilité en fait. On se dit oh, je suis nul, mais en fait, quand on est humble, on se dit oui, je ne suis que ça. J'accepte de n'être que ça pour le moment.
Et il faut se passer par le nul pour pouvoir progresser. Mais aussi, il faut avoir de l'imagination. Il faut visualiser aussi une possibilité. Et on a envie, c'est rentrer en soi, c'est rentrer dans un. D'abord, il y a la constance, le fait de travailler tous les jours. C'est ça qui fait aussi la différence, et ce désir d'aller vers l'inconnu.
Alors, on va parler de peinture maintenant avec vous, Juliette Binoche. Vous êtes fascinée par la peinture depuis vos 7 ans, grâce au dessin d'une amie. Le dessin un dessin de chaussure, et vous pouviez imaginer la femme qui posait ses pieds dessus.
Alors, c'est vrai que quand on était à l'école, on dessinait beaucoup de chaussures, parce que c'est les années 70, il y avait beaucoup de talons compensés. Et ma copine Nathalie savait très très bien les dessiner. Moi, j'ai dessiné un petit peu moins bien, ce qui m'énervait un peu. Mais enfin, j'essayais quand même. Mais bon, c'est le désir du dessin, en fait, il est apparu. Parce que ma mère n'avait pas tellement les moyens. Mais à un moment donné, elle a reçu un petit peu de sous. Et c'est les dommages d'intérêt de la guerre, parce qu'ils avaient dû fuir la Pologne en 39. Et elle a acheté ces grands livres de peinture qu'il y avait à l'époque, qui s'appelaient les chefs-d'œuvre d'art.
Chefs-d'œuvre de la peinture.
Voilà, chefs-d'œuvre de la peinture.
Tomes.
Voilà, exactement.
Et il paraît que vous les avez ingurgités à l'âge de 9 ans, Juliette
Binoche. Et tous les jours, je prenais un livre et je copiais. Et comme il y avait toutes les époques, il y avait sculpture et peinture, et donc ça a été vraiment pour moi un lieu de voilà d'intimité, d'apprentissage et de bonheur. Et à partir de là, j'ai toujours un peu peint. Voilà.
Comme et vous, du vélo. Vous avez exposé vos tableaux d'ailleurs. Vous faites beaucoup
alors,
de portraits.
Alors j'ai fait deux expositions différentes. Une avec Christian Fenouillat, qui est un décorateur de théâtre, qui est peintre aussi. On a fait à Tours. J'avais une carte blanche et on a exposé là-bas. On a fait une énorme toile de 4 mètres sur 52, un truc de ouf. Mais comme j'étais enceinte, j'avais le temps, j'ai mis des grosses éponges sur mes genoux et à quatre pattes, on a peint tous les deux avec nos mains. Donc c'était comme des flammes, une espèce de danse à deux où on a peint ces grandes flammes et qu'on a distribué après aux gens, aux personnes qui sont venues visiter à la fin. Comme on ne savait pas très bien quoi faire de cette toile, on s'est dit, on va tout découper et tout donner aux gens qui viennent. Donc il y a 800 personnes qui sont venues prendre un petit morceau, des plus gros morceaux. Et puis une autre exposition que j'ai fait de portraits, que j'ai fait à partir d'un livre, des autoportraits des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, mais aussi des autoportraits des personnages que j'ai joués en écrivant un petit texte qui était quand même relié au tournage, mais surtout aux metteurs en scène avec qui j'ai travaillé.
Dans les activités qui vous grisent, Juliette Binoche, il y a aussi le fait de s'oublier. Comment est-ce qu'on s'oublie ?
Ben quand on est passionné par ce qu'on fait, le dépassement de soi, c'est parce qu'on est dans le don de soi. Donc il y a dans le don, on ne pense pas à soi, on est dans une zone différente.
On s'extrait de soi.
On s'extrait, on se donne. Le soi est nécessaire. Mais on se donne tellement qu'on en oublie Et la création est un jeu où l'on s'oublie.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Votre premier antidote musical, Juliette Binoche, date de 1924. C'est l'un des plus beaux standards de jazz composé par George Gershwin, The Man I Love. On entend la version interprétée par Ella Fitzgerald. C'est un morceau qui n'est pas exempt de mélancolie.
Ah, qui est complètement mélancolique. Et moi, je sais que je les ai toujours écoutés avec cette tristesse infinie de ne pas trouver l'homme de ma vie, parce que j'ai toujours pensé que j'allais trouver l'homme de ma vie. Et comme j'ai quand même pas mal de déceptions, c'était une chanson qui me permettait de rêver que l'homme est possible, que la rencontre avec un homme est possible. Vous n'êtes pas d'accord ?
Peut-être. J'ai entendu parler de cette chose qu'on appelle amour. Adagio de la symphonie numéro 9 en ré majeur de Gustav Mahler, interprété par l'orchestre Gürzenich de Cologne, dirigé par Markus Stenz. Juliette Binoche, pourquoi ce choix ?
Mahler, parce qu'il a des espaces infinis dans sa musique. On sait qu'il a perdu un enfant, je crois une petite fille, et il a écrit à la suite de ça... des symphonies magnifiques. Enfin, sa dernière, je crois, c'est la 9, si je
oui,
mes souvenirs sont bons.
C'est la dernière.
Et je trouve que c'est ça arrache le cœur, mais la mélancolie, pour moi, c'est... Parce qu'on m'avait demandé ce qui pallie à la mélancolie. Mais pour moi, il faut rentrer dans la mélancolie pour pouvoir la retourner. Et c'est pas en la chassant, en fait, qu'on la chasse, c'est en la vivant. Et qu'on se retourne. Et c'est un lieu... c'est pour ça que le drame ou la tragédie m'a jamais fait peur, parce que pour moi, c'est pas un lieu lourd, c'est un lieu de vérité. Et comme disaient les Grecs, c'est bien de voir les tragédies parce que ça permet de répéter au cas où il se passe le même malheur dans sa vie. Je trouve ça assez drôle. Mais finalement, ils n'ont pas tort parce que ça nous prépare. Et pour moi, le drame, ça se... Voilà, cet enseignement-là. Et aussi parce que je crois que quand on a la joie en soi, on peut voir tous les drames du monde, ça n'enlève pas la joie immanente du cœur, voilà. Et je pense que parfois ce désir toujours d'aller toujours dans des comédies, pour moi, je me dis que ce désir-là, c'est que quelque part, il y a trop de tristesse. Et moi, j'ai pas forcément besoin de voir des comédies, parce que je pense que la joie est là. C'est comme ça que j'essaie de comprendre et d'analyser cette espèce de focalisation sur les comédies, que je n'ai pas. Même si je fais des comédies aussi, parce que d'abord c'est plus difficile, et que je suis pas habituée trop à ça.
Vous avez d'ailleurs aussi, Juliette Binoche, choisi des morceaux littéralement joyeux, comme... d'ailleurs, c'est pas un morceau, c'est un artiste, c'est Harry Belafonte.
Ah oui.
Alors lui, on danse tout de suite dès qu'on l'entend.
Oui, avec Makeba.
Oui, Makeba.
Et moi, j'ai entendu ça petite, parce que ma mère avait le disque, mes parents avaient le disque, et c'était aussi sur, euh, c'était révolutionnaire parce que c'était contre l'apartheid et c'était des chants de résistance en fait des Zoulous, des Xhosa, parce qu'ils font un claquement de langue en même temps.
Et ben on écoute tout de suite Belafonte et Makeba.
When you kumbela, when you kekuseni, when you kumbela, we babu yandishia. When you kumbela, when you kekuseni, when you kumbela, we babu yandishia. When you kubumbela, when you kekuseni, when you kubumbela, we babu yandishia, juku 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 juku, juku yandishia. Babu yandishia, juku 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 juku, juku yandishia, juku 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 juku, we babu yandishia. When you kubumbela, we babu yandishia. When you kubumbela, when you kekuseni, when you kubumbela, we babu yandishia. Juku juku juku.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Juliette Binoche. Votre premier sérum littéraire, c'est le livre paru chez POL récemment, Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, qui vous a d'ailleurs dirigé en 2006 dans son film Quelques jours en septembre. Comment décririez-vous ce livre qui fait partie d'une grande œuvre, un projet colossal qu'a Amigorena?
Il a une écriture merveilleuse, très, très fine. Mais dans ce livre-là, je trouve qu'il s'est dépassé. Parce qu'il a une vision de la question juive qui fait du bien, parce qu'elle elle est libre et extrêmement intelligent, et je trouve que ça, c'est un livre qui fait du bien, et parfois ses phrases sont extrêmement sophistiquées, et là je trouve que il a une écriture beaucoup plus directe. Et je trouve que c'est un livre à lire sur c'est un de ses meilleurs.
Ça retrace la vie de son grand-père, Vincente Rosenberg, un juif polonais immigré en Argentine en 1928, et qui se rend peu à peu compte, pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce qui se passe en Europe, puisqu'il reçoit les lettres de sa mère qui est restée en Pologne.
C'est déchirant d'ailleurs.
Oui, parce qu'il ne veut pas au début se rendre compte de ce qui se passe.
Oui. C'est un livre très émouvant, et on a presque du, on n'a pas envie qu'il finisse, parce que tellement l'histoire est forte, et à la fois c'est insoutenable.
Vous nous liriez un extrait, Juliette Binoche?
Moi non plus, je ne voudrais jamais vivre dans un pays où il n'y aurait que des Juifs. Mais là n'est pas le problème. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ridicule d'imaginer ça. C'est absurde de vouloir nous définir de cette façon. Techniquement, on est juif, mais pratiquement, on ne l'est pas. Que nos mères soient juives peut impliquer pour certains que nous aussi nous le soyons, mais ça n'empêche pas que pour d'autres, cela ne peut rien vouloir dire du tout. D'ailleurs, imagine à quel point cette définition est ridicule. Si je me marie avec un goy, mes enfants ne seront pas juifs, mais si eux, à leur tour, tout goyim qu'ils soient, ils épousent une juive, j'aurai des petits-enfants juifs. C'est aberrant, ça.
Le ghetto intérieur, Santiago Amigorena, et lorsqu'il fait allusion au pays où il n'y aurait que des juifs, c'était le premier projet des nazis d'envoyer tous les juifs à Madagascar. Puis finalement, il y a eu la solution finale. Et ça paraît absolument absurde, comme le reste. Juliette Binoche, il y a un autre sérum littéraire que vous avez choisi. Vous l'avez découvert à l'âge de 25 ans, à une période où vous étiez, je vous cite, au fond du trou. C'était au moment du tournage des Amants du Pont Neuf de Léos Carax. Et on écoute tout de suite un indice.
Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous sommes dit, où est notre vérité, individuelle. Et on l'a trouvée. Parce qu'à un moment donné, Hannah a traduit la parole de l'ange. Mais ce n'était pas une promenade sur les Champs-Élysées. La première chose que j'ai vue, c'était mon propre portrait psychologique, mais vu par la vérité. Ce n'était pas beau.
La Hongroise Gita Malache sur la RTBF en 89 pour introduire l'un des livres qui vous appuie le plus, Juliette Binoche, c'est Dialogue avec l'ange. Et c'est un livre très particulier puisque c'est la transcription d'une expérience spirituelle vécue pendant la Seconde Guerre mondiale par quatre amis hongrois de juin 43 à novembre 44, alors que les nazis envahissent la Hongrie et déportent les juifs en masse. Anna Dalloz transmet au cours de 88 entretiens des paroles qui proviendraient de quelqu'un d'extérieur à elle, un ange probablement. Et Gita Malache l'a traduit en français.
C'est un temps de crise terrible. Et à ce moment-là, ces deux amies, Anna et Gita, parce que Gita était très déprimée, elle se posait des questions sur elle-même. Et à un moment donné, Anna a senti que c'était plus elle qui parle, mais à travers elle, parlait une parole différente, celui de l'ange. Et donc ce livre, c'est une transcription de tous ces dialogues qu'ils ont eus tous les vendredis dans l'après-midi. Et si on le lit chronologiquement, ça, on voit toute l'évolution qu'elles ont vécue ensemble. Et après ça, Lily, une de leurs amies, est venue aussi les rejoindre, et ensuite Joseph, qui était le mari de Anna. Et trois sont morts en camp. Trois étaient juifs. Mais pas pratiquant, et Gita était catholique, mais pas pratiquante non plus. Donc ils se sont liés à travers une amitié entre elles et à travers ces dialogues. Et c'est vrai que quand on les suit, ça permet une rentrée, parce qu'elle posait des questions à cet ange qui parlait à travers Anna. Et c'est, moi j'ai trouvé ça passionnant, d'abord parce que ça parle beaucoup de création, de création, ça parle de la vie de manière générale, mais c'est très... On peut, comment dire, je trouve que dans notre époque actuelle, ce livre a encore plus de portée, parce qu'on vit une crise et que apparemment ça va pas s'améliorer. Et je trouve que c'est un moment où c'est important de rentrer en dialogue avec en soi. Et donc, je vous lis un extrait, c'est
ça ? Oui, si vous voulez, j'ai juste une question avant, Juliette Binoche, si vous permettez. Vous avez dit dans une interview que vous aviez un rapport à l'invisible depuis petite. On avait reçu dans cette émission Bruno Dumont, avec lequel vous avez tourné, et qui avait dit qu'il était parfaitement athée, mais qu'il avait une vie spirituelle. C'est possible ?
Tout est possible.
Justement, vous n'êtes pas religieuse, mais vous vous êtes passionnée par les rituels, les textes taoïstes, soufis,
mais
chrétiens.
Mais j'ai besoin de la prière comme un lieu de paix, un lieu d'expérience, un lieu où mon esprit et mon corps font un lieu où j'ai une gratitude et un lieu où j'ai besoin d'être protégée. C'est un lieu intérieur, tout simplement. Alors, on peut parler de méditation, de prière. Pour moi, c'est la même chose. Il y a aussi des écrits, des prières écrites qui aident, qui sont fortes et qui me portent. Maintenant, il y a des périodes où j'ai pas du tout besoin ou envie de ça. Je veux dire, on est cyclique aussi, hein. On vient, on va, et ça fait partie de cette évolution intérieure. C'est comme les dialogues. Parfois, je les relis complètement, je les lis tous les jours, et parfois, je les abandonne pendant un an. Donc, je veux dire, il n'y a pas de recette toute faite.
Alors, on vous écoute, Juliette Binoche, dans cet instant.
Donc, c'est vendredi 21 janvier 1944, entretien 31 avec Lily. Je prends la parole. Je continue à parler de la mesure. La tâche de l'animal est centrée sur lui-même. Il ne se réjouit que de ce qui est à lui. Son air, sa nourriture, son petit. S'il va bien, il se réjouit de tout. Il vit dans un cercle qui s'appelle lui-même. Ce qui est à l'intérieur du cercle, il l'absorbe, car il centre tout sur lui-même, créature. C'est juste le contraire chez l'homme. Sa mesure et votre joie sont ce que vous rayonnez au-delà du cercle. Et c'est incommensurable. L'animal a faim, il se rassasie et cela suffit. L'homme est rempli, il rayonne, et cela ne suffit jamais. Donc sa joie n'a pas de mesure.
Dialogue avec l'ange, lu par Juliette Binoche. Roi céleste, hymne au Saint-Esprit par le chœur Saint-Siméon dirigé par Nana Peradze. Ce chœur chante la prière orthodoxe que vous partagez avec nous, Juliette Binoche. Roi céleste, consolateur, vous la connaissez par cœur ?
Oui.
Allez-y.
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen.
C'est une prière au Saint-Esprit très répandue dans l'Église orthodoxe. On ne commence jamais une action importante sans la prononcer. Est-ce que vous vous la dites souvent, Juliette Binoche ?
En ce moment, oui, parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps.
Comment ? À quelle occasion ?
Parce que je suis allée à... Il y avait une rencontre sur l'écologie et la chrétienté à Saint-Michel-du-Var, qui est un petit monastère. Et il y a différentes personnes qui ont été invitées. Donc j'y suis allée parce que ça m'intéressait de voir ce qui s'y disait et le lien entre la spiritualité et l'écologie qui est la sonnette d'alarme de nos jours.
Et un domaine dans lequel vous êtes engagée.
Oui. Et donc j'ai découvert cette prière que je trouve très forte. En fait, c'est la prière du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne finalement. Et je trouve qu'elle est extrêmement forte. Et c'est esprit de vérité. Esprit de vérité, c'est quoi ? C'est fascinant, je trouve, comme image.
Avec l'idée de consolation aussi.
Oui.
On retrouvera la prière retranscrite sur le site internet de l'émission. Et dans un instant, nous serons rejointes par Rembrandt et Bonnard, juste après un titre de la playlist France Inter, Slumlord de Baxter Dury.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun.
murder shoes, dirty eyes sizing up. Say, just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Sur France Inter, dans l'officine de l'âme de Juliette Binoche, vous avez choisi de nous parler des autoportraits de Rembrandt et du peintre Pierre Bonnard. Et vous dites, Juliette Binoche, toute œuvre vraie est forte et belle.
Oui, j'ai rien à rajouter.
D'accord, on arrête là alors. Non mais alors, les autoportraits de Rembrandt, c'est assez sidérant et remarquable comme œuvre, puisque c'est une autobiographie picturale finalement, oui. Il y en a... Sur
une
40 ans de sa vie.
Décalcante.
Oui,
décapante.
Décalcante aussi. Parce que Rembrandt n'embellissait pas. Il collait au réel.
Oui, oui. Mais et plus que ça, parce qu'il y a quand même, dans toute œuvre d'art, il y a une transposition de toutes les façons. Mais il y a un regard chez lui, une façon de rentrer en lui qui est une merveille de... d'humilité, on sent vraiment l'humilité et cette énorme mélancolie et cet amour de la vie à la fois, parce que l'un n'empêche pas l'autre, enfin l'un et l'autre d'ailleurs.
Il a perdu deux femmes et un fils, il a eu une vie assez difficile je crois, et puis c'était aussi un sacré coco puisqu'il a fait enfermer une de ses amantes dans un asile en disant qu'elle était folle. Je dis ça puisque vous avez joué Camille Claudel, Juliette Binoche.
Mais aussi il est mort dans la pauvreté si je me souviens bien, qui est quand même incroyable parce que c'est comme Van Gogh quoi, c'est des peintres qui sont adulés, on se bataille leur tableau alors qu'ils ont eu des vies quand même très difficiles.
Mais les puissants n'aimaient pas ces tableaux justement parce que Rembrandt n'embellissait pas la vérité.
Oui.
C'est cette idée de vérité, ça vous accompagne, Juliette Binoche?
Je crois que c'est le regard nécessaire de toute façon dans la vie, mais l'art est est la création de l'homme dans sa vérité, donc dans sa beauté. Je crois que si on est vrai, on est beau. Et ça ne veut pas forcément dire que la vérité peut déranger et dérange souvent. Et la nouveauté est dans cette... Parce qu'un artiste doit chercher le nouveau en lui. Sinon, c'est de la répétition, c'est trop conventionnel. Il s'enferme dans une idée ou dans un savoir-faire. Et de sortir de ça, ça demande d'être toujours sur la limite du vertige, sur la limite d'être honnête, de pas savoir. Et moi, c'est ce moment qui m'intéresse. C'est devant la caméra. J'ai beau savoir mon texte, j'ai beau savoir les marques, j'ai beau connaître tout le monde, etc., les gens de la technique, mon partenaire, etc. Je ne veux pas savoir. Voilà. C'est ce moment de déséquilibre qui fait qu'on trouve quelque chose de nouveau.
Mais c'est amusant ce que vous dites, Juliette Binoche, parce que justement, dans les deux peintres que vous avez choisis, les autoportraits, c'est 40 ans d'autoportraits, mais il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre.
Absolument.
C'est tout le temps nouveau. Et Pierre Bonnard a représenté presque toujours sa femme Marthe pendant 50 ans et aucun tableau ne ressemble à un autre.
Et aussi, Bonnard a fait des autoportraits magnifiques dans sa salle de bain et qui sont tout aussi, avec une technique totalement différente de celle de Rembrandt, qui sont tout aussi... C'est-à-dire que ça... Il y a quelque chose qui... On sent fragilisé et fort à la fois. On est touché et à la fois cette vérité, si touchante, elle nous donne de la force.
Allez voir, chers auditeurs, vraiment, allez voir en vrai si vous le pouvez, sinon sur Internet. Rembrandt et Bonnard. Bonnard, on dirait qu'il fait beau dans la pièce quand on regarde un de ses tableaux.
C'est vrai.
Juliette Binoche, merci beaucoup d'être venue à cette émission.
Merci.
Depuis mercredi dernier, vous êtes à l'affiche du film La Vérité de Corey Eda. On pourra également vous voir le 11 mars prochain dans La Bonne Épouse de Martin Provost et courant 2020 dans Le Quai de Ouistreham d'Emmanuel Carrère, l'adaptation du livre de Florence Obna. Chers auditeurs, la programmation, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre humeur a la même vivacité qu'une pastèque à hélice. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Vos papis ont rendez-vous dans quelques instants avec François-Régis Gaudry et son émission On va déguster.